Alors, maintenant, on va essayer de parler des effets de cette histoire. Alors, je vais vous montrer quelques courbes. En précisant une chose importante, c'est qu'elle découle du consensus scientifique d'il y a 3 ou 4 ans. Et que le consensus, enfin, et que, à mon avis, ce consensus est en train d'évoluer vers une vision beaucoup plus pessimiste de la situation. En d'autres termes, ce que je vais vous présenter maintenant est probablement en dessous de ce qui sera contenu dans le prochain rapport de synthèse qui sera rendu par... Alors, il y a une sous-agence de l'ONU qui s'appelle le GIEC, ou l'IPCC en anglais, qui est en fait un joint venture entre les Nations Unies et l'Organisation Météorologique Mondiale, qui rend toutes les quelques années, la dernière fois c'était en 2001, la prochaine fois ce sera en 2007 ou 2008, ce qu'ils appellent un rapport d'évaluation. Donc c'est une grosse synthèse, en 800 pages et en anglais, de ce qui s'est publié dans la littérature scientifique sur l'effet de l'homme sur le climat. Voilà, c'est ça le rapport du GIEC. J'espère qu'il n'y a pas de journaliste dans la salle, mais enfin même s'il y en a un, je peux le dire quand même. Pas un journaliste qui vous commande ce rapport ne l'a lu. Comme du reste, pas un journaliste qui vous commande un document de 500 pages ne l'a lu. Hein, c'est, les journalistes n'ont pas le temps de lire, et pas vous non plus du reste. Hein. Ils n'ont pas le temps de lire un truc qui fait 500 pages et qui est en anglais. Hein. Il y a peut-être un journaliste en France si, qui en a lu des morceaux significatifs. Je peux le nommer, c'est Sylvestre Huette de Libération. Donc c'est le journal où vous ne risquez pas de trouver une grosse bêtise sur la partie scientifique du changement climatique. Mais je pense que c'est le seul à avoir lu plus de 10% de ce rapport. Hein. Donc retenez quand même ça. Les gens qui vous parlent de la science dans le journal, globalement, ne lisent pas les papiers qu'ils commentent. Ils lisent le communiqué de presse, les gens qui ont un avis dessus, etc. Mais ils ne lisent pas le papier lui-même. C'est valable quelle que soit la discipline scientifique concernée. Alors, l'enseignement important, donc je le disais, c'est avec la génération de modèles qui était utilisée jusqu'en 2000, hein, où il y avait un certain nombre d'effets dont je vous parlerai rapidement après qui n'étaient pas pris en compte. Voilà comment on peut mettre en perspective la température moyenne du dernier millénaire dans l'hémisphère nord. Ça, c'est ce que vous avez en bas, là, la courbe rouge. La température et la température projetée pour le 21e siècle. Alors, vous voyez que sur la température moyenne de l'hémisphère nord, on était en gros, jusqu'au début de la révolution industrielle, un demi-degré en dessous de la température de 90, qui sert de 1990, qui sert de référence. Vous voyez ici l'élévation parfaitement marquée du 20e siècle. Mais qui reste du même ordre de grandeur que la barre d'erreur pour les époques anciennes. Parce qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y avait personne qui avait un thermomètre, il n'y avait pas de thermomètre. Hein. Donc on n'a pas procédé en allant demander, en allant mettre son nez dans les archives de Météo France en 1452. En 1452, Météo France n'existait pas, les thermomètres n'existaient pas, donc il faut faire autrement. Et c'est là que je vous dis, on fait des trous partout, et on arrive à reconstituer les températures avec ça, en faisant des analyses isotopiques dans la glace, dans les coraux, dans etc. Évidemment, comme pour toute analyse faite en laboratoire, il y a une petite barre d'erreur qui est représentée par cette zone en gris. Donc vous voyez que l'élévation de température du XXe siècle, elle est toujours comprise dans la barre d'erreur pour les époques plus anciennes, ce qui fait que par exemple, on ne peut pas exclure que ici la température, au lieu de faire le truc en rouge, là qui représente la valeur la plus probable, elle est en fait fait un truc comme ça, puis un truc comme ça, puis un truc comme ça, etc. Hein. Ce qui veut dire que le débat pour le XXe siècle, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous, il a un sens, a priori, parce que la variation est toujours... Dans la barre d'erreur pour les époques très anciennes. Alors en fait, ce qui permet de dire que c'est pas nous, c'est pas tant l'élévation que la manière dont elle s'est produite, en particulier pour la deuxième partie de cette élévation entre 70 et 2000. D'abord, elle est quand même allée très vite, et ensuite, elle a une structure qui fait que les principaux outsiders sont hors course. En particulier, l'un des principaux outsiders, c'est le soleil. Hein, beaucoup de gens se disent, bah ma foi, si la température monte, c'est peut-être tout bêtement qu'on a plus d'énergie solaire. Alors si c'était ça qui s'était passé, on devrait assez logiquement enregistrer des températures qui montent plus vite quand il y a du soleil que quand il n'y en a pas. Hein. Sauf que c'est exactement l'inverse qu'on constate. Les températures ont globalement monté plus vite la nuit que le jour, au moyenne latitude, elles ont globalement monté plus vite l'hiver que l'été, elles ont globalement monté plus vite au pôle qu'au tropique. Ça, c'est parfaitement incompatible avec une élévation de l'activité solaire. Hein. Etc. Enfin bon, là, ça, c'est un exemple facile à commenter. Il y a bien évidemment tout un pan des rapports du GIEC qui est consacré à ce qui s'appelle l'attribution des causes. Hein. Combien est-ce que l'homme a joué par rapport aux causes de variation naturelle qui existent, évidemment. Vous avez des tas de causes de variation naturelle du climat. Le volcanisme, la dérive des continents à des échelles longues. Enfin, il y a des tas de trucs de l'océan, enfin, il y a des tas de trucs qui interviennent. La question, c'est de savoir si nous, on intervient plus que les autres. Et c'est surtout, ce qui est surtout significatif sur ce graphique, c'est que vous voyez qu'avec des émissions de gaz à effet de serre qui restent simplement ce qu'elles sont aujourd'hui. D'accord ? Donc le monde reste simplement identique à ce qu'il est aujourd'hui. On prend de l'ordre, avec ces anciens modèles, de l'ordre de 2 degrés d'élévation de température en un siècle. Alors je vous dis, c'est avec ces anciens modèles. Maintenant, les simulations qui sont faites, elles gardent toujours le même bas de fourchette. C'est-à-dire, on est toujours dans l'ordre de 2 degrés. Mais pour ce même scénario d'émission, c'est-à-dire des émissions qui restent constantes, hein, le haut de la fourchette est à 10 ou 12 degrés. Ce qui veut dire que l'incertitude vers le haut a considérablement augmenté, c'est-à-dire que le système pourrait être beaucoup plus sensible à la pichenette qu'on est en train de lui donner que ce qu'on imaginait. Alors, j'ai prononcé le mot de scénario d'émission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous allez voir le docteur en lui disant « Docteur, je fume et je voudrais savoir à quoi vont ressembler mes poumons dans 20 ou 30 ans », la première question qu'il doit normalement vous poser, c'est est-ce que demain matin vous avez l'intention de fumer autant ? Est-ce que vous avez l'intention de diviser votre consommation de cigarettes par deux ? Ou est-ce que vous avez l'intention de la multiplier par trois ? Et en fonction de la réponse à cette question, lui, il vous fera un pronostic plus précis. D'accord ? Alors, en ce qui concerne notre planète, c'est exactement pareil. Si vous allez voir un physicien en lui disant docteur, parce qu'on dit docteur en physique en général, à quoi ressemblera la planète en 2100 ? Ils sont incapables de répondre à cette question si vous ne précisez pas combien de gaz à effet de serre on émet entre aujourd'hui et 2100. Hein, si vous ne précisez pas quelle est la tabagie entre guillemets de la planète pour le siècle qui commence, eh bien, leur réponse sera beaucoup plus imprécise. Et comme une large partie des conséquences est directement dépendante de l'amplitude thermique qu'on va gagner au cours du 21e siècle, vous voyez bien que de dire « je veux savoir exactement quels sont les risques que je cours pour le siècle qui vient » sans préciser combien l'humanité pourrait émettre, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens. Les gens ne savent pas répondre avec précision à cette question. C'est assez évident. Hein. Voilà, donc on est toujours obligé de préciser ce que sont les émissions dans cette affaire. Donc je vous dis, les émissions restent constantes, eh bien, on gagne déjà de l'ordre de 2, probablement 3 ou 4, dans la génération de modèles qui arrive, degrés. Et si on considère que le mode de vie... J'ai fait ça avant le référendum. Si on considère que le mode de vie non négociable de l'humanité, c'est celui d'un Polonais d'aujourd'hui, qui se trouve avoir plein de charbon, c'est une caractéristique qu'on peut considérer comme applicable à la planète. Je suis sûr que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui considèrent qu'ils ont un niveau de vie supérieur à celui de la France. On va dire, c'est plutôt un objectif minimal. Eh bien, là, on multiplie par 5 les émissions de CO2 de l'humanité sur le siècle qui commence, et la température planétaire gagne de l'ordre de 5 degrés avec cette ancienne génération de modèles. Et à mon avis, là, avec les nouvelles générations, on est plutôt au-dessus de 10. Donc, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus important. Alors, je vous ai dit 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, 10 degrés, etc. Vous allez vous dire, on s'en fout de toute façon. Entre la température qu'il faisait ce matin et celle qu'il faisait cet après-midi, à Montargis, je suis sûr qu'il est monté, le thermomètre est monté de moins de 8 ou 10 degrés. C'est pas ça qui va nous tuer. Il faudra qu'on pense à se réserver une maison dans le Morbihan, et puis voilà. Il n'y aura plus sur la Côte d'Azur. Alors en fait, malheureusement, c'est pas du tout comme ça que se présente le problème, parce que pendant que la température monte à Montargis, elle descend à Sydney. Pendant que c'est l'hiver à Montargis, c'est l'été à Sydney, etc. Et si vous prenez la température moyenne de la planète, elle ne varie pas du tout de 5 degrés par jour, elle ne varie même pas de 5 degrés par mois, elle ne varie même pas de 5 degrés par an. Hein. Ce qui fait que si la moyenne planétaire monte durablement de quelques degrés, c'est un changement d'air climatique. Donc actuellement, le thermostat planétaire est sur 15 degrés à peu près, hein, la moyenne planétaire est à 15 degrés. Eh bien, si vous baissez ce thermostat... Alors là, dans le changement climatique actuel, on est en train de parler de hausse, hein. Là, je vous parle d'une baisse, parce que ça, c'est documenté, c'est arrivé avant, la hausse, jamais. J'y reviendrai. 5 degrés de plus en un siècle ou en deux siècles, ou même en 10 000 ans, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est jamais arrivé du temps de notre espèce. Hein. Si vous parlez de 5 degrés de baisse, on sait ce que c'est une ère glaciaire. D'accord ? Donc actuellement, le thermostat planétaire est sur 15, vous le mettez sur 10, et vous êtes en ère glaciaire. Alors, est-ce que ça change beaucoup de choses ? Bah oui, ça change quand même un certain nombre de choses. Ah zut, excusez-moi. Cette petite bête. De temps en temps, elle me fait ça. Il faut lui parler gentiment. C'est capricieux. Et... Ça doit être un ordinateur femelle, pardon. On y revient. Voilà, donc je disais, avec 5 degrés en moins, vous n'avez pas d'AMAP en Norvège et au Canada, parce qu'il n'y a personne en Norvège et au Canada, il y a 3 km de glace à la place. Vous n'en avez pas beaucoup en France, parce que vous avez un sol gelé en permanence, donc il ne pousse pas beaucoup de laitue sur un sol gelé en permanence. Vous avez en France une espèce de steppe boréale. Vous n'avez pas beaucoup de clients pour les AMAP, parce que la France héberge quelques dizaines de milliers d'hommes, et pas plus, qui sont, alors là par contre c'est très mauvais pour le changement climatique, occupés à courir derrière des rennes, donc ils mangent essentiellement de la viande. Voilà, donc un paysage qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez, je suis désolé, je vais faire encore pire que ça, il va falloir que je quitte. Vous avez une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans Eurotunnel, c'était pas nécessaire à cette époque-là, parce que le niveau de la mer avait baissé de 120 mètres, donc la Manche n'existait pas. Évidemment, les calottes glaciaires avaient tellement grossi qu'elles avaient pompé de l'eau dans l'océan, et cette eau qu'elles avaient pompée dans l'océan avait fait baisser le niveau océanique d'à peu près 120 mètres. Et puis, je vais continuer à vous commenter pendant que ce truc... Et puis, vous aviez des différences de température par rapport à aujourd'hui qui étaient extrêmement différentes selon les latitudes, puisque au tropique, par rapport à aujourd'hui, vous aviez quasiment pas de différence de température. Si vous regardez la température des océans de surface au tropique en ère glaciaire, c'est à peu près ce que vous avez aujourd'hui. Par contre, plus vous remontez vers les pôles, et plus la différence de température était marquée par rapport à aujourd'hui. En Europe, on avait à peu près 10 degrés en moins par rapport à aujourd'hui. Donc on a quand même un panorama extrêmement différent quand on est en ère glaciaire par rapport à aujourd'hui. Ce qui laisse penser que quelques degrés d'élévation de hausse par rapport à aujourd'hui, ça ne sera absolument pas une promenade de santé, mais un changement d'air climatique. Et si ça se produit en un ou deux siècles, on pourrait probablement parler de choc climatique plutôt que de changement climatique. Hein. Encore une fois, c'est une transition du même ordre que celle qui nous a fait sortir de la glaciation, sauf que cette transition, naturellement, s'est passée en 10 000 ans. Et là, on est en train de parler de quelque chose qui pourrait se passer 50 fois plus rapidement. Alors, c'est pas à vous que je vais faire un dessin. Quand vous rentrez dans un mur à 2 km/h et quand vous y rentrez à 100 km/h, vous n'avez pas exactement les mêmes conséquences à la sortie. Hein. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui est extrêmement ample et extrêmement brutal par rapport à ce que notre espèce a jamais connu. Quand je vous dis c'est totalement inédit, ça veut dire que vous en êtes réduit aux conjectures pour savoir ce qui va se passer plus tard. Hein. Il est rigoureusement impossible de trouver un bon décès, c'est-à-dire soit la situation de la Terre dans le passé, soit une planète ailleurs dans le système solaire qui permettrait d'avoir un étalon. Hein. Ce qui serait vachement pratique, c'est d'avoir 260 planètes Terre dans le système solaire avec des civilisations industrielles qui seraient développées il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles, il y a 5 siècles, qui auraient émis avec des populations de 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards. Et puis là, vous sauriez à partir de quand est-ce qu'on va commencer à avoir de gros ennuis, en dessous de quand est-ce que, en dessous de quel seuil il faut absolument rester pour ne pas en avoir trop, etc. Vous auriez un banc d'essai, quoi, en gros. Exactement comme le cancérologue, il a un banc d'essai à sa disposition, c'est tous les gens qui ont déjà fumé et qu'il a observé mourir comme ceci, mourir comme cela ou ne pas mourir du tout. Enfin, s'ils finissent tous par mourir, mais enfin, éventuellement d'autres choses. Bon. Là, on n'a pas ce banc d'essai, on n'a pas de référent, donc on en est réduit à faire fonctionner notre cervelle, et ça se limite là. Alors bien évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre que le fonctionnement de la cervelle, il n'est pas omnipotent. Il y a un certain nombre de choses qui n'est pas possible de raconter. Alors, si on regarde le genre de truc qui peut arriver, alors évidemment, vous allez avoir des impacts sur les écosystèmes. Je vous disais tout à l'heure, quand on baisse la température planétaire de 5 degrés, on a une toundra boréale en France à la place de ce qu'on a aujourd'hui. Donc manifestement, il va se passer des choses si on monte le thermostat rapidement. Vous pouvez penser par exemple à la disparition de la forêt méditerranéenne hein, qui sous l'effet des incendies, du stress hydrique, des incendies, etc. Finit par disparaître. Vous pouvez imaginer que vous allez avoir des parasites qui vont se mettre à prospérer là où ils ne prospéraient pas, des maladies cryptogamiques qui peuvent se développer sur un certain nombre de plantes, etc. Enfin, je veux dire, le truc va être bousculé, c'est difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Vous allez avoir une augmentation du niveau des océans, ça je vous en parlerai rapidement. Une modification des phénomènes extrêmes, parce que si vous touchez rapidement au cycle de l'eau, il va se passer des trucs sur les extrêmes du cycle de l'eau, sécheresse et inondation, ça paraît assez évident. Vous pourriez avoir une augmentation du fameux trou dans la couche d'ozone, c'est pas un trou, c'est pas une couche, mais enfin je développerai pas ce soir. Vous allez avoir des impacts sur la santé humaine, ça je reviendrai rapidement. C'est surtout la dernière phrase qui est importante. Encore une fois, comme la situation est inédite, on va avoir essentiellement des surprises. Hein. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas demander à la communauté scientifique, ça n'a absolument aucun sens, de lui dire, ben voilà, faites-moi un descriptif détaillé de tout ce qui m'attend si je mets un pied dans ce restaurant, et seulement alors, je déciderai, ou bien moi politique d'agir, ou bien moi électeur de voter pour quelqu'un qui va agir, et de changer mes priorités. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Hein. La seule chose, encore une fois, qu'il faut garder en mémoire, c'est ces fameux 5 degrés de différence. Hein, entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, et penser qu'une élévation de température de quelques degrés vers le haut, c'est vraisemblablement quelque chose de très désagréable à terme. Voilà. C'est une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, très rapidement, Voilà par exemple une maladie dont le potentiel épidémique augmente avec la température, le paludisme. Donc on peut imaginer que si on augmente la température, cette maladie va faire plus de dégâts, essentiellement parce que quand on augmente la température, on va remonter vers les pôles les zones où le moustique qui véhicule le parasite se trouve bien. Voilà un autre exemple, alors peut-être moins connu. En haut, vous avez le nombre de cas de choléra au Bangladesh, et en bas, vous avez l'anomalie de température du Pacifique Est. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'anomalie de température du Pacifique Est. C'est le nom barbare de El Niño. Quand vous êtes en condition El Niño, le Pacifique Est a une température plus élevée qu'à l'ordinaire. Eh bien, vous voyez que vous avez une corrélation entre les deux, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand le Pacifique Est a une température plus élevée que d'habitude, vous avez tendance à avoir plus de cas de choléra que d'habitude. Ce qui s'explique parce que la pluviométrie augmente, donc là c'est pareil, la niche écologique du bacille du choléra se trouve, etc. Donc vous avez des interactions entre le climat et la santé humaine, souvent plus faciles à caractériser a posteriori qu'à deviner a priori. Le problème avec l'océan n'est pas tellement ce qui va se passer dans le siècle qui vient. Alors l'océan, pourquoi est-ce qu'il va monter? Il a deux raisons. La première, c'est parce que quand vous chauffez de l'eau, elle se dilate. Et quand vous dilatez de l'eau dans un bassin océanique qui a une forme donnée, le niveau de l'eau monte. Vous pouvez faire l'expérience dans votre baignoire, ça marche très bien. Et la deuxième raison pour laquelle le niveau de l'eau va monter, c'est parce que vous pourriez faire fondre tout ou partie du Groenland, tout ou partie du Groenland et une partie de l'Antarctique. Si vous faites fondre la banquise, je vous signale que c'est déjà un glaçon qui flotte sur l'eau, ça ne change rien, a dit Monsieur Archimède, au niveau de l'eau. Donc si vous faites fondre la banquise, il n'y a plus de banquise, ça Monsieur Lapalisse l'a dit aussi, mais ça ne change pas le niveau de l'océan. Par contre, si vous faites fondre de l'eau qui se trouve sur la Terre, donc une calotte qui est portée par de la Terre, et que cette eau va dans l'océan, là vous faites monter le niveau de l'océan. Alors, voici une simulation qui vous donne la contribution possible du Groenland en centimètres, c'est pas des mètres, au niveau de l'océan, sur les 1000 prochaines années, vous voyez, ça prend quand même un certain temps, en fonction de la température qu'on pourrait atteindre au-dessus du Groenland dans 1000 ans. Il se trouve que la température qu'on pourrait atteindre au-dessus du Groenland dans 1000 ans, en gros, c'est 4 à 5 fois celle qu'on aura pour la planète dans son ensemble dans un siècle. Donc vous voyez, si on a 1 degré de plus pour la planète dans son ensemble dans un siècle, on aura pas loin des 5 degrés en plus au-dessus du Groenland dans 1000 ans. Ce qui veut dire que la fonte partielle du Groenland, qui se terminera probablement par une fonte totale, on est raisonnablement sûr de l'avoir. La fonte du Groenland en quelques milliers d'années est un truc pour lequel on a vraisemblablement signé. Enfin, où on n'en est pas très loin. Une fois que le Groenland aura fini de fondre, vous voyez quand même que ça va prendre un certain temps, on aura rajouté 6 mètres au niveau de la mer. Alors vous avez en Antarctique de l'Ouest un autre système glaciaire instable qui est posé sur un socle qui est sous-marin. Et ce système glaciaire est stabilisé par des langues qui flottent à la surface de l'eau. C'est dont la fameuse plateforme de Larsen. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y avait un morceau de cette plateforme qui s'était détaché, qui était grand comme la moitié de la Corse ou la Lozère, ou je ne sais plus quoi exactement. Donc c'est cette plateforme qui stabilise la calotte. Et si cette plateforme disparaît parce qu'elle est rongée par l'eau qui se réchauffe, par en dessous, vous avez l'eau qui va s'infiltrer dans le socle en bas de la calotte et qui va finir par la désagréger. Et là, vous avez aussi un système qui pourrait rajouter 6 mètres d'eau dans l'eau, au niveau de l'océan mondial. Et si vous rajoutez à l'échelle du millier d'années ou de 2000 ans la dilatation sous l'effet de la chaleur, ce dont on est en train de parler à l'échelle du millier d'années, c'est plus de 40 cm, c'est de 15 mètres. Je vous rappelle qu'il y a quand même bon nombre de villes qui sont multiséculaires et une élévation. En gros, l'élévation de l'eau océanique, c'est quelque chose qui est pas très important sur un siècle donné, mais qui est doté d'une inertie absolument considérable. Donc ça va durer des siècles, des siècles, des siècles. Enfin, je vais vous le montrer après, c'est parti pour durer très longtemps. Alors, il y a un deuxième problème qui, lui, pourrait se manifester plus rapidement, c'est la modification de la circulation océanique. Si vous regardez comment la circulation océanique... Si vous faites une espèce de résultante du brassage de l'eau dans les océans, vous savez qu'il y a des courants qui vont dans tous les sens, vous vous retrouvez avec en gros un déplacement de l'eau de surface qui va d'est en ouest sous l'effet des alizés et une plongée des eaux qui se fait au niveau du Groenland et un courant retour en dessous. Alors pourquoi est-ce que l'eau a envie de plonger quand elle est là alors qu'il fait particulièrement froid même si elle est en maillot de bain? Alors la raison en est une différence de densité entre l'eau de surface et l'eau qui est un peu plus en dessous. Vous savez que l'eau qui arrive aux abords du Groenland, c'est l'eau qui est remontée le long de l'Atlantique, c'est l'eau du Gulf Stream, c'était de l'eau qui était chaude, qui s'est refroidie, Donc elle est devenue plus dense. Quand l'eau se refroidit, elle devient plus dense. Et c'est de l'eau qui s'est chargée en sel, parce qu'une partie de l'eau de surface s'est évaporée, est tombée sur les continents, et de là, elle est allée ruisseler ailleurs que de l'endroit où elle s'est évaporée. Donc c'est de l'eau qui devient plus salée, plus dense, parce que quand vous chargez de l'eau en sel, ça augmente sa densité, et qui s'est refroidie aussi plus dense. Et quand elle arrive à côté du Groenland, et que vient l'hiver, cette eau va recevoir un apport de sel, encore un apport de sel, au moment de la formation de la banquise. Quand l'eau qui va constituer la banquise gèle, elle expulse une partie de son sel, pas tout, mais une partie, et donc elle va charger en sel l'eau qui ne gèle pas encore plus. Et donc là, cette eau devient extrêmement dense, enfin, par rapport au reste, et pouf, elle plonge. Donc vous avez une espèce de pompe aspirante autour du Groenland qui permet au Gulf Stream, qui existerait quand même sans ça, hein, mais qui bouclerait beaucoup plus bas et en surface, de remonter très au nord et de nous donner cette fameuse chaleur dont on bénéficie tous. Vous savez tous qu'on est à la latitude de Montréal, etc. Dans le passé, cette circulation s'est arrêtée à plusieurs reprises. Au cours de la dernière ère glaciaire, alors sur les derniers 100 milliers d'années, là c'est moins 100 000 ans, moins 80, etc. Tous les trucs qui correspondent à des haches là, sur cette courbe, c'est des moments où le Gulf Stream s'est arrêté. Alors on sait reconstituer ça avec des tas d'analyses, je vous en fais grâce, s'il y a des questions j'y répondrai bien volontiers. On sait aussi à ce moment-là que la température moyenne sur l'Atlantique Nord a baissé de quelques degrés, 4 ou 5, en l'espace de quelques dizaines d'années, peut-être même moins de la décennie. On sait aussi à ce moment-là que sur la péninsule ibérique, les précipitations ont très fortement baissé. Donc non seulement la température a baissé, mais le climat s'est très fortement asséché. Et les écosystèmes en place sur la péninsule ibérique ont très rapidement varié. Ce qui était là, les arbres, les espèces d'arbres qu'il y avait, se sont réduites comme peau de chagrin. Et pour une large part, a poussé à la place, là aussi, une espèce de steppe qui a remplacé la végétation qui était là. Et tout ça s'est déroulé extrêmement rapidement. Hein. On peut imaginer que si à l'avenir, parce que tous les modèles disent que la circulation dans l'Atlantique Nord va s'affaiblir, sous l'effet dans le cadre du changement climatique, il y a un seuil quelque part, alors qu'il est peu probable qu'on franchisse au cours du 21e siècle, mais au cours du 22e, ça commence à devenir quelque chose qui est loin d'être à exclure. Même au cours du 21e, personne ne peut vous dire, je vous garantis, là, je vous le signe de mon sang, que je suis absolument certain que le Gulf Stream ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un physicien qui vous dira ça. Il vous dira simplement, ça me paraît peu probable au vu de ce que je sais. C'est comme ça qu'ils formulent leur réponse. Hein. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on court aucun risque. Hein. Ça veut simplement dire qu'on ne sait pas. Bon. Par contre, encore une fois, la circulation va s'affaiblir et quelque part il y a un seuil, encore une fois, qu'on n'est pas capable d'identifier avec précision, au-delà duquel le système bascule brusquement. Hein. Et j'en profite pour faire une incidente plus générale. Le climat est bourré de ce qu'on appelle des processus à effet de seuil. C'est-à-dire qu'une petite augmentation dans la cause change radicalement la nature de la conséquence. Alors vous avez un effet de seuil lié à la température, chacun d'entre vous et moi aussi, qu'on connaît très bien. Si vous avez votre température interne qui grimpe de quelques degrés, c'est très grave, vous êtes très malade, mais vous n'en mourrez pas. Et puis il suffit de prendre le demi-degré ou le degré supplémentaire, et vous passez de vie à trépas, et l'ensemble de ce qui suit, pour vous, est assez considérablement modifié. Vous avez franchi un seuil. Bon. Et bien, avec le climat, c'est exactement pareil. Un autre système à effet de seuil que vous connaissez très bien, c'est un élastique. Hein, vous le tirez, il s'allonge, vous le tirez un peu plus, il s'allonge un peu, et puis à un moment, vous allez le tirer un tout petit peu plus, et il vous pète entre les doigts. C'est pareil, il a franchi un seuil. Le climat est bourré de systèmes comme ça. C'est caractéristique de ce qu'on appelle les systèmes non linéaires. Vous savez, l'effet n'est pas proportionnel à la cause. Hein. Nous, on raisonne linéaire. 1 kg de carotte, 1 euro, 2 kg de carotte, 2 euros, 3 kg de carotte, 3 euros. Voilà, ça c'est une relation proportionnelle, linéaire, c'est à ça qu'on est habitué. Donc le non-linéaire, c'est pas un truc qu'on appréhende de manière très intuitive. Pourtant, c'est ce que vous avez dans la majeure partie des systèmes physiques. Hein. Les systèmes physiques, ils sont jamais exactement linéaires, c'est très rare. Donc vous avez des processus à effet de seuil dans le climat, un peu partout. Et encore une fois, j'insiste sur une chose, nous n'avons pas de banc d'essai à notre disposition pour identifier les seuils, puisqu'on est en train de vivre une expérience qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'espèce humaine. Et malheureusement, si l'expérience ne nous plaît pas, eh bien, on ne pourra pas revenir en arrière, on n'a pas de deuxième essai, et pas d'extra balle. Un autre effet du CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'il va acidifier l'eau de surface. Vous savez peut-être que dans les époques anciennes, le CO2 s'appelait l'acide carbonique, comme ça qu'on appelait le CO2, tout simplement parce que quand il se dissout dans l'eau, il rend l'eau acide. Hein. Il vous fait du H+, et du HCO3- et du CO3 2-, pour ceux qui se rappellent avec délectation de ce genre de choses. Alors, là, il y a une petite simulation qui montre que si on augmente violemment, alors là, pour le coup, c'est vraiment violemment, ça serait de l'ordre de « on crame tout le charbon hein, », la quantité de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, on va faire perdre quasiment une unité de pH à l'eau en surface. Alors, vous savez que il y a des tas d'espèces marines qui ont besoin, au premier rang desquelles des espèces extrêmement intéressantes, comme le homard et les huîtres, qui ont besoin de fabriquer du calcaire. Hein. Tous les mollusques, tous les crustacés, une bonne partie du plancton. C'est d'autant plus difficile de faire du calcaire que l'eau est acide. Donc, si on acidifie l'eau de surface, il va se passer des choses au niveau de la vie marine. Les coraux sont concernés aussi. Enfin oui, ils sont concernés par des tas de trucs, les pauvres. Donc, vous avez vous allez avoir un facteur de pression, on va dire, sur la vie marine. Là aussi, difficile à évaluer parce que pour le moment, il n'y a pas encore énormément d'expérience de laboratoire. Alors, vous avez probablement tous en mémoire la canicule de l'été 2003 et cette question lancinante qui est revenue sans cesse. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est pas nous? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que, etc. Alors, on ne sait pas si c'est le changement climatique aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le changement climatique pourrait provoquer la répétition de ce genre de situation, et même pire. Sur cette simulation qui a été faite, alors c'est avec le scénario polonais, hein, ça c'est les émissions progressivement multipliées par 5. Eh bien, vous voyez que la température de l'été 2003, qui est représentée par cette barre là sur ce schéma, pourrait devenir la norme d'ici quelques dizaines d'années, et pourrait devenir un été frais d'ici un siècle. Voilà. En d'autres termes, on va... Si le changement climatique bat son plein, on pourrait dire, il va se mettre à se passer des tas de choses, encore une fois, inédites. Hein. Si l'été normal en 2050, c'est l'été 2003, ça veut dire que l'été caniculaire sera déjà significativement plus chaud. Hein. Donc il va se passer, encore une fois, des choses inédites. Il ne faut pas raisonner comme si la situation climatique d'aujourd'hui allait être stable sur le siècle qui vient. On sait déjà que ce ne sera pas le cas. Hein. Ce qui est encore entre nos mains, c'est que l'évolution soit plus ou moins ample. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'évolution, ça, on sait déjà que ça ne se passera pas. Alors, maintenant, je vais vous parler de deux choses qui sont pour moi les choses les plus ennuyeuses. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme mettait du CO2 dans l'atmosphère. Alors, il est très loin d'être le seul. Vous voyez, on met... Alors, c'est en milliards de tonnes par an, cette affaire, hein, milliards de tonnes de carbone. Donc, on met 6 milliards de tonnes de carbone par an parce qu'on utilise du gaz, du charbon et du pétrole. Et de l'ordre de 1 parce qu'on coupe des forêts et ailleurs, on en reforeste. Vous voyez qu'il y a aussi des échanges de carbone entre l'atmosphère et la planète qui sont extrêmement importants. Et du reste, si vous regardez que les flèches qui montent, vous pouvez vous dire, bon, on est des petits bras, nous, ici, il y a 60 milliards de tonnes qui montent par an. Ici, il y en a 90, 150. Jean Covici n'est pas nous faire suer avec les 6 milliards émis par l'humanité. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Alors en fait, si, il y a de quoi en faire un plat, parce que dans le même temps que le système terrestre en met, il en retire. Et en fait, il en retire à peu près autant, et même un peu plus, parce qu'il est bon prince pour le moment, il en enlève une partie d'une autre, qu'il y a dans l'atmosphère. Entre l'atmosphère et là, et vous allez voir que ce système dépend de la température, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à devenir plutôt moins efficace avec la température qui augmente. Entre l'océan et l'atmosphère, la vie marine dans cette histoire est extrêmement peu concernée. On pourrait supprimer, ça plairait peut-être pas aux gens dans cette salle, mais on pourrait supprimer demain matin tous les dauphins, toutes les baleines et tout le plancton. Ça ne change pas les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan, parce que c'est essentiellement dû à la physico-chimie. C'est dû au fait que le CO2 se dissout mieux dans l'eau froide que dans l'eau chaude, tout bêtement. Donc là où vous avez le courant du Labrador qui descend et qui se réchauffe, eh bien vous avez de l'eau qui émet du CO2, et là où vous avez le Gulf Stream qui remonte et qui se refroidit, vous avez de l'eau qui absorbe du CO2. Voilà. Encore une fois, les baleines, ils sont pour rien. Mais vous voyez par contre que la température y est pour quelque chose, et donc si vous montez globalement le thermostat planétaire, eh bien vous allez affaiblir ce système, puisque vous allez avoir de l'eau de plus en plus chaude en moyenne, donc qui absorbera de moins en moins le CO2. Et si vous montez suffisamment le thermostat planétaire pendant suffisamment longtemps, vous allez renverser cette pompe. C'est exactement ce qui s'est passé vraisemblablement lors des dernières déglaciations. Vous avez le soleil qui devient un peu plus chaud, il commence à chauffer toute la Terre, y compris les océans se mettent à émettre du CO2, renforcent l'effet de serre, et après le phénomène s'auto-entretient jusqu'à être stabilisé par un processus qu'on ne connaît pas pour le moment, à un niveau plus élevé. Hein. Donc c'est vraisemblablement comme ça que les choses se sont passées. En ce qui concerne les écosystèmes terrestres, alors certains d'entre vous sont bien placés dans cette salle pour savoir qu'il y a un flux descendant, c'est la photosynthèse, hein. Mais vous avez aussi un flux montant, vous en avez même deux. Vous avez la respiration, parce que les plantes respirent aussi. Et vous avez, parce que les plantes ne sont pas plus immortelles que nous, alors pour les salades, vous le savez, pour les oliviers, c'est pareil, vous avez la décomposition de ce qui est mort. Donc une fois que les végétaux meurent, ils se décomposent, et le carbone qu'ils contiennent repart dans l'atmosphère. Alors là, la cuisine, elle est un peu plus compliquée. Au moment où vous allez monter la température, avec un peu plus de CO2 dans l'atmosphère, au début, vous allez donner raison à Arrhenius. Hein. Il y a plus à manger dans l'atmosphère, il fait un peu plus chaud, globalement, la végétation, elle prospère, il y a plein d'hommes, et donc la biomasse va croître. Mais dans le même temps, vous allez également augmenter la décomposition en provenance des sols, parce que plus vous chauffez le système, et plus les petites bêtes qui décomposent l'humus dans le sol se portent bien, et plus elles décomposent l'humus du sol à vitesse accélérée. Donc quand vous montez le thermostat, au début, vous allez augmenter les deux flux, l'un et l'autre. Et puis, passé un certain niveau d'élévation du thermostat, la végétation va commencer à plafonner, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir du stress hydrique, vous allez commencer à avoir des espèces qui sont plus adaptées, etc. Et la photosynthèse va s'arrêter de prospérer, et elle va même commencer à décliner. Pendant ce temps-là, les émissions des sols, eux, ils prospèrent de plus en plus avec l'élévation de température. Et donc, passé un certain niveau d'élévation de température, vous allez inverser cette pompe à carbone. C'est-à-dire que les écosystèmes terrestres qui, aujourd'hui, retirent une partie du carbone qu'on met dans l'atmosphère, eh bien, d'ici quelques décennies, pourraient se mettre à devenir un émetteur de CO2 à nos côtés. Et à ce moment, nous, on peut bien s'arrêter d'émettre du CO2. C'est la nature, d'une certaine manière, qui aura pris le relais. Ce processus pourrait arriver bien avant la fin du siècle, il pourrait arriver d'ici quelques décennies. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez mis en route cette machine infernale, vous ne voyez pas trop comment ça s'arrête. C'est-à-dire que les écosystèmes terrestres deviennent des émetteurs de CO2, le climat se réchauffe, ça émet encore plus fort du côté des écosystèmes terrestres, le climat se réchauffe encore plus, etc. Vous ne voyez pas où ça s'arrête, cette histoire. Vous voyez pas où ça s'arrête. Alors, voilà une simulation qui a été faite par les Anglais, je ne vous la commande pas longuement, qui partait de 1850. Et qui montre que si vous prenez en compte cet effet de la végétation qui devient stressée, on va dire, hein, sur le climat, vous pourriez aboutir à une élévation de température en 2100 qui serait de 1 à 3 degrés supérieure à ce qu'on a si on ne prend pas cet effet en compte. Et encore une fois, si cet effet commence à se produire, le climat ignore le calendrier romain, l'évolution ne s'arrête pas en 2100, vous êtes à peu près assuré que derrière, vous allez avoir un truc qui va encore évoluer à vitesse accélérée, et là, vous ne pouvez plus évacuer des 15 degrés ou 10 degrés, enfin entre 10 et 15 degrés de hausse de la température globale en 2200. Et là, la question du nombre de zéros derrière le 6 pour la population humaine, elle est clairement posée. Donc, vous avez une espèce de bombe à retardement, on va dire, dans la végétation, qui pourrait se mettre en route au cours du siècle qui commence. Et une fois qu'elle se sera mise en route, elle ira malheureusement de plus en plus vite. La deuxième chose qui pourrait arriver concerne ce qu'on appelle les hydrates de méthane, et plus exactement en fait le méthane de diverses manières. Je vous ai dit tout à l'heure que le méthane s'était émis sur Terre, dans les sources naturelles, vous avez les marécages, parce que vous avez des végétaux qui se décomposent à l'abri de l'oxygène de l'air. Il y a un moyen de rajouter des marécages à la surface de la Terre, c'est de faire fondre la toundra. Vous savez que la toundra, enfin de les créer à la surface de la toundra, vous savez que les régions boréales, le nord du Canada, le nord de la Sibérie, etc., sont des régions où le sol est gelé en permanence. Si vous commencez à dégeler le sol gelé en permanence de ces régions-là, vous créez des espèces d'énormes marécages qui vont devenir des sources significatives de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre. Et puis vous avez un deuxième endroit où vous pourriez avoir du méthane qui se mettrait à être émis, c'est en provenance des profondeurs. Il y a des endroits sur Terre où le méthane s'associe à de l'eau pour former un cristal, donc ça ressemble à de la glace. Du reste, ça en a vraiment l'aspect quand vous regardez ça sur une photo, sauf que c'est de la glace qui brûle, parce que c'est un assemblage d'atomes, enfin de molécules d'eau et d'atomes de méthane. C'est un peu comme des enfants qui seraient prisonniers dans une cage à écureuils, vous savez, dans ces trucs qu'on trouve dans les jardins d'enfants, là, qui sont des espèces d'assemblages de barres en métal, là. L'hydrate de méthane, donc ce cristal mix d'eau et de méthane, c'est comme si vous mettez des enfants dans les trous de la cage à écureuils, et bien là c'est pareil, vous mettez des atomes de gaz dans les trous qui sont laissés par l'assemblage de molécules d'eau quand ça fait un cristal. Ce genre de truc se forme quand vous avez des grandes pressions, des températures basses, et à la fois du méthane et de l'eau. Alors un endroit où ça va se former, c'est dans les fonds océaniques, parce que vous avez des grandes pressions, vous êtes sous plusieurs centaines de mètres d'eau, vous avez de l'eau, sous l'océan en général vous en avez, vous avez du méthane, parce que vous avez tout le plancton qui tombe au fond de l'océan, qui se décompose, et il ne fait pas très chaud, vous savez qu'au fond de l'océan, où vous voyez sur la planète, rapidement vous tombez à une température moyenne de quelques degrés. Et on soupçonne qu'il existe des quantités absolument considérables d'hydrates de méthane sur Terre, soit sous les sols gelés en permanence, soit au fond des océans. Il y a une estimation qui circule, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, expliquant que vous avez autant de carbone dans les hydrates que... vous avez le double de carbone dans les hydrates que dans tout le charbon terrestre. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Toujours est-il que là aussi vous avez un processus qui pourrait arriver, qui est, vous avez une élévation de température en surface significative, cette élévation de température finit par se propager dans les premières centaines de mètres de l'océan, atteint la couche de stabilité des hydrates, et comme la température monte, ça les déstabilise, ça se met à émettre du coup du méthane, parce que le cristal, quand il se dissocie, le méthane part dans l'air. Du coup, ça amplifie le réchauffement climatique, etc. Donc là, vous avez une deuxième boucle de ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, dans le jargon des physiciens. Et là, c'est pareil. Pour le moment, il est difficile de conceptualiser comment ce truc s'arrête une fois qu'il est parti. Vous avez donc une deuxième déstabilisation, amplification de la déstabilisation, on va dire, possible dans le système climatique. Alors, décidément, il m'aime vraiment pas ce soir. Vous avez quelques éléments que j'aimerais livrer à votre perspicacité en guise de conclusion, qui sont, enfin, sur cette affaire de risque, qui est que, comme vous pouvez le voir, identifier avec précision ce qui pourrait se passer reste un exercice difficile. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles ça n'a pas beaucoup de sens de parler de conséquences certaines. On peut parler simplement d'un risque qui augmente, mais exactement comme n'importe qui dans cette salle qui se mettrait ou qui fume ne peut pas être certain qu'il va mourir du cancer du poumon.